Nous en sommes à la cinquième partie, composée des articles 9 à 11, que j'intitule « Du péché ». Veillez trois articles presque entièrement consacrés à la chute et au péché de l'homme. Synoptiquement, ils correspondent au catéchisme dans le pour le catéchisme de Heidelberg, aux questions 4 à 5. Je commence par l'article 9. Nous croyons que l'homme, qui a été créé pur sans la moindre tâche et conforme à l'image de Dieu, est par sa propre faute déchu de la grâce qu'il avait reçue. Il s'est ainsi séparé de Dieu qui est la source de toute justice et de tout bien, au point que sa nature est désormais entièrement corrompue. Nous croyons que l'homme, étant aveuglé dans son esprit et dépravé dans son cœur, a perdu toute intégrité sans en avoir aucun reste. Bien qu'il ait encore quelques discernements du bien et du mal, nous disons néanmoins que la lumière qui subsiste en lui se change en ténèbres quand il est question de chercher Dieu, de sorte qu'il n'en peut nullement approcher par son intelligence et sa raison. Quoique l'homme ait une volonté par laquelle il est incité à faire ceci ou cela, nous croyons toutefois qu'elle est totalement prisonnière du péché, en sorte qu'il n'a de liberté à bien faire que celle que Dieu lui donne. L'article 9, consacré à l'homme, enseigne le dogme du péché originel, d'où découle celui de la corruption radicale de notre nature. Petit a, le péché originel. Le péché originel est la misère à la racine de toute misère. Il est la misère à la source de toute misère. C'est une misère anormale dans le sens de ce qu'elle sort de la norme établie par la parole de Dieu. Le péché originel est une difformité par rapport à la loi de Dieu. Le péché a commencé dans l'histoire. Le péché est historique. La Bible nous indique l'origine historique du péché. Elle répond à la question à partir de quand nous savons que nous sommes des pécheurs, mais nous sommes des pécheurs depuis quand? À partir de quand? À la suite de la désobéissance d'Adam, créé à l'image de Dieu, l'humanité ne peut qu'incliner au mal. la misère de l'homme à l'homme pour auteur. La cause du péché n'est pas en Dieu. Et je vous renvoie ici, vous voyez ce cours s'organise quelquefois en synopse, et j'espère que si vous avez des questions qui relèvent de ce que nous sommes en train de faire à l'examen final, l'histoire, j'espère que vous saurez justement organiser vos connaissances en synopse et répondre aux questions en fonction aussi de ce que vous aurez appris par ailleurs en diapositive. Alors voilà la synopse que je propose, c'est la question très audacieuse, quasi scandaleuse, qui est la question numéro 6 du catéchisme de Heidelberg. Dieu seul serait-il l'auteur du péché? Dieu serait-il auteur du péché? La cause du péché n'est pas en Dieu. Et on le sait. Un seul verset biblique déchirerait toute notre réflexion. C'est Dieu et lumière, et il n'y a pas en lui de lumière. La cause du péché n'est pas en Dieu, ni dans la nature de l'homme, telle qu'elle est sortie des mains du Créateur. Chose très importante, et qui sera très importante pour le délicat article 12 sur la prédestination, chose très importante, il faut affirmer cela avec la netteté du tranchant d'une épée, il n'y a pas de prédestination du péché en l'homme. Il n'y a pas de prédestination au péché en l'homme. Si la Bible nous enseigne l'origine historique du péché, elle ne nous en indique pas la cause. Elle ne nous en indique pas le mode. Il n'y a pas d'explication au péché. Le péché est inexplicable. Et si vous partagez mon opinion théologique, qui est très hardie, et je la crois tout à fait conforme avec les confessions de foi et avec la Bible, personnellement, je suis de ceux qui pensent que Adam ne pouvait pas pécher. Je trouve trop facile ce que disent les prédicateurs en disant voilà. Monsieur Adam était passé en toute liberté devant un véritable choix. Il pouvait pécher et il pouvait ne pas pécher. C'est ce qu'en général on vous raconte. Eh bien, moi, je ne le pense pas, c'est ça. Je m'explique. Je ne pense pas qu'il y ait eu dans l'homme une possibilité de pécher. Parce que si tel est le cas, ça veut dire qu'il y avait en l'homme, quelque part, un rouage mal arrivé. C'est qu'il y avait quelque part un conduit prévu pour le mal, une possibilité du mal. Et pour moi, la possibilité, c'est déjà le mal. Alors, je pense, et je vous dis les choses évidemment vraiment résumées, je pense que l'homme ne pouvait que le faire le bien. Puisque Dieu s'écrit, alors qu'il dit Tov pour les autres jours, là, il s'écrit « Oh, que c'est beau, que c'est bien, etc. » parce que l'homme est créé, c'est impeccable, quoi. Et d'ailleurs, impeccable veut dire qu'il ne s'est pas péché aussi. Hein. C'est-à-dire, voilà, l'homme ne pouvait que faire le bien. Ce que nous savons, c'est que, étant créé que pour faire le bien, bien, il a fait quand même le mal. Donc, le péché est une réalité survenue. Le péché est inexplicable. Ce qui fait que notre péché est inexcusable, notre péché à l'origine, c'est que nous ne pouvons pas donner l'explication. Trouver une explication, ce serait trouver une excuse. Vous savez, lorsque l'on va confesser qu'on a fait, qu'on a commis, dont on n'est pas fier, si on peut expliquer à sa maman que c'est à cause du chat qui avait déjà repéré le pot de confiture en haut du placard, etc. C'est à cause de mon frère qui a mis justement l'escabeau devant l'armoire. Et alors je n'ai eu qu'à suivre l'intuition fondamentale du chat qui avait déjà repéré le pot de confiture, qu'à monter sur l'escabeau qui se trouvait déjà là, laissé par mon frère, et que par ailleurs, comme à midi, la cantine ne m'a pas nourri, puisqu'il y avait une grève, une partie du personnel, etc., eh bien, je suis monté en haut de l'escabeau, et j'ai saisi le pot de confiture, au grand dam du chat, et je l'ai exhaustivement mangé. Eh bien, maman, je reconnais cela. Mais en même temps, puisque j'explique ce qui s'est passé, je rends ma quelque aventure explicable, et par là, je donne, si vous voulez, les possibilités, en l'expliquant, de me faire pardonner par maman.
Ceci est valable que pour le péché.
Allez-y. Pour le péché, monsieur le conseil.
On ne peut pas l'expliquer. Vous avez donné ensuite une explication. Je veux savoir si cette explication est simplement le problème du péché. Toute explication.
Je dis que si on pouvait expliquer, à ce moment-là, on pourrait excuser. On rendrait la chose excusable. Or, le péché est inexcusable. Nous ne pouvons pas donner l'explication. Trouver une explication, ce serait trouver une excuse. Vous voyez ? Ce serait trouver finalement des circonstances atténuantes. C'est ce qu'on cherche à faire. Enfin, c'est ce que d'ailleurs on a fait. Adam a dit mais oui, c'est la femme que tu dis, etc. Et la femme dit, il y a là le serpent, etc. Et le serpent, ben, il ne dit rien, mais si vous voulez dire quelque chose, il dit... voilà. Comprendre le péché, ce serait le justifier. Or, le péché a surgi. Et le saut du verbe sauter du bien au mal demeure inscrutable. C'est une réalité survenue. Réalité non créée, le péché n'a pas d'essence stricte. Il est toujours parasitaire. Si on dit que le péché a de l'être en lui-même, à ce moment-là, on le valorise extrêmement. Le péché n'a pas d'être. Il est parasitaire. Il est imprévu, il n'est pas voulu. Pourtant, il est là. Et c'est celui pourtant qui demeure inscrutable. C'est-à-dire le petit a, le péché originel. Petit b, la corruption radicale comme conséquence. Petit b, la corruption radicale comme conséquence. Eh bien, la réforme insiste sur la corruption totale, sur la corruption radicale de l'homme. Radicale, vous avez à la racine. Cette corruption radicale a un double sens. Premièrement, la corruption radicale infecte toute l'humanité. C'est l'universalité externe du péché. Le mal s'étend à tous les hommes. Tous les hommes, tous, pas même un seul, etc. Et tous les hommes sont pécheurs. L'Océan Roi, chapitre 8, verset 46, c'est Matthieu 15, c'est Romains 3. Tous sont pécheurs. Ça, c'est le premier sens. La corruption radicale qui infecte donc toute l'humanité. L'universalité externe. Deuxièmement, non seulement la corruption infecte tous les hommes, mais tout l'homme. C'est l'universalité interne. C'est l'homme tout entier qui est atteint. Et non pas quelques petits secteurs seulement. Le péché procède du cœur. Le cœur est la cible, le centre de l'homme. C'est Jésus qui dit, c'est du cœur que viennent toutes choses. À partir de ce centre, tout est en ténèbres. Le péché marque de son emprise tout l'homme. Et c'est pourquoi Paul parle en Romains 6 du corps de péché. Tout est atteint, tout est atteint. Tout ce qui est un homme est atteint. Dans l'expression totale corruption, la réforme qui insiste sur la corruption totale, il ne faut pas prendre l'adjectif total intensivement. Vous voyez ce que je suis en train de faire avec vous, hein? Je prends l'expression totale corruption, je viens d'indiquer la corruption. Et je viens de dire qu'elle a un double sens, externe et interne. Externe, elle atteint tous les hommes. Interne, elle atteint tout l'homme. Maintenant, dans l'expression totale corruption, j'insiste sur l'adjectif total. Et je dis, il ne faut pas prendre l'adjectif total intensivement. Si tel était le cas, la vie ne pourrait plus être possible. La vie ne serait plus possible, car il y aurait destruction de l'homme. Si la corruption était totale dans son sens intensif, et ce qui empêche ce ravage, c'est un frein, et c'est le frein sur lequel je terminais le dernier cours, la dernière fois. C'est la grâce commune. C'est la grâce commune ou générale de Dieu que j'ai relié, rappelez-vous, au problème du bien et qui est grâce commune, nous avons dit, de préservation et d'inspiration. Ici, il s'agit de la grâce commune de préservation. C'est Dieu qui préserve les dégâts du péché de façon que l'homme ne devienne pas un sous-homme et que la vie s'arrête. Dans l'expression totale corruption, il faut prendre l'adjectif total extensivement. Non pas intensivement, mais extensivement. Ce cours est capital, hein? C'est pourquoi je le fais lentement, pour que vous puissiez prendre des notes, parce que tout repose sur un cours comme ça. Hein? Là, il ne faut pas prendre l'adjectif total extensivement. Intensivement, il faut prendre l'adjectif total extensivement. La nature humaine est tout entière plongée dans le péché. Et c'est le psaume 51, verset 7. La nature humaine est tout entière plongée dans le péché. Toutes les parties de l'homme sont corrompues. Toutes les parties de l'homme sont corrompues. Il n'y a pas, ceci est cardinal, il n'y a pas de petite place préservée. Il n'y a pas dans l'homme un endroit où le péché ne serait pas. Il n'y a pas de petite plage qui est préservé du péché. Il faut souligner ici l'expansion du péché à tout l'homme. L'intelligence, c'est-à-dire la raison, est corrompue, mais aussi la volonté de l'homme est corrompue. Et dans les milieux évangéliques, on n'est pas au clair, en général, sur ce point. On dit, par exemple, dans la conversion, dans l'évangélisation, on dit maintenant, c'est le moment de la paix, vous êtes invités à répondre, etc., etc. Et quelquefois, la théologie derrière, c'est que l'homme à cette possibilité de répondre à Dieu parce que précisément il a une plage de décision qui est tout à fait immaculée où il peut répondre. Eh bien non, l'homme, son intelligence est atteinte, mais aussi sa volonté, mais aussi toutes ses affections, c'est-à-dire les sentiments. Et évidemment, lorsqu'on dit, quelquefois on a l'air de dire que le cœur n'est pas atteint, alors qu'il est atteint en premier, puisqu'il est le centre de l'homme. C'est la cible qui est atteinte. Donc le cœur est atteint. Donc le cœur est pécheur. Alors il faut se méfier. Dans nos milieux, on se méfie de l'intelligence, mais pas du cœur. Alors qu'il faut se méfier de l'intelligence aussi bien que du cœur. Et il faut demander une conversion, certes de l'intelligence, mais aussi du cœur. Et même du cœur avant l'intelligence, c'est pas le cœur. Alors, j'en viens par là, au courant en présence, vous avez le courant pélagien, évidemment de l'hérétique de l'église ancienne Pélage, et qui a pris un nouveau vêtement avec évidemment l'arminianisme qu'on appelle le courant arminien. Attention ici, grosse naïveté, hein, mais il ne faut pas confondre avec l'arménien qui est un individu qui habite dans un pays qui s'appelle l'Arménie. Devrait s'appeler l'Arménie, hein, pas dans les affaires politiques, mais l'Arménien, hein, Voilà. Ici, ce n'est pas un arménien, mais c'est un arminien, parce qu'il est disciple d'un monsieur qui s'appelle Arminius, qui est un individu qui est un individu de la fin du XVIe siècle, un théologien, professeur de théologie à l'université de Leyde, aux Pays-Bas. Voilà, M. Arminius, en fait, comme vous. Et ça, c'est l'individu qui vit au XVIe siècle. Et au XVIIe siècle, ce que représente ce monsieur va se retrouver la position, comme étant la position de la fameuse Académie de Saumur, qui est une brillantissime académie de théologie protestante au XVIIe siècle. Hein. L'académie, non, mais la ville existe, Saumur. La brillantissime académie de Saumur. Hein, voilà. Alors, le courant pélagien arminien, ce courant refuse, eh bien, ce que je viens de vous dire, il refuse cette corruption radicale en voyant en l'homme une possibilité de rétablir la communion avec Dieu. Et ce sera la position de Charles Finet, par exemple. Et c'est une position, si vous avez baigné comme moi dans les milieux évangéliques, vous en transférez de tous les côtés de cette position. On vous dit, voilà, Jésus-Christ a tout fait pour votre salut, maintenant, c'est à vous. Alors, on vous dit même, Dieu a comme les mains liées derrière le dos, et puis il attend votre décision, et c'est à vous. C'est l'instant de la décision, mesdames et messieurs, à cette minute, et c'est à vous de répondre, de faire quelque affaire, de lever la main, de signer une carte, de bon. Et vous retrouvez dans le discours des prédicateurs la fameuse affaire du chèque en blanc. Hein. On dira, Dieu a fait un chèque en blanc et il ne vous manque plus que signer le chèque. Vous n'avez plus qu'à endosser le chèque ou à signer le chèque. Enfin, ça dépend dans quelle affaire, dans quel crédit bancaire se trouve le prédicateur. Alors vous allez endosser le chèque ou à signer le chèque. Alors voilà, Dieu a tout fait en Jésus-Christ. Voilà le chèque, il est à vous. Et maintenant, signez. Mais si on signe, ou si on met son nom, ça veut dire qu'on a la possibilité de signer. Et la liberté de signer. Eh bien, avec la confession de La Rochelle, j'affirme que non, l'homme n'a pas la possibilité de signer ce chèque. Il n'a pas la possibilité d'y mettre son nom. Parce que il n'y a pas en l'homme de plage, d'endroit, qui ne serait pas atteint par le péché, où l'homme pourrait lucidement prendre une décision venant de lui-même. Il ne peut pas. Il est tout tenté, tout entier, plongé dans le mal. Et c'est ce que dit la grande confession du protestantisme français. Nous reconnaissons et nous confessons devant ta sainte majesté que nous sommes de pauvres pécheurs, nés dans l'esclavage du péché, enclins au mal, incapables par nous-mêmes de faire aucun bien. Voilà, aucun bien. Nous ne pouvons pas faire ce bien qui est de mettre son nom, ou faire ce bien de signer. Nous ne le pouvons pas. Et c'est ça qui est précisément tout le problème. C'est pourquoi il y a les articles 9 à 11. Eh bien, ceci est la position, donc, du courant pélagien arménien. Et par charité, je ne vous donne pas des noms contemporains. Il y aurait d'ailleurs une liste qui serait trop. Oui. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, on peut mettre. Il y aurait beaucoup de monde à mettre. Hein. mais nous ne le ferons pas parce que nous sommes charitables. Si on peut pas toujours. Alors, bon. Alors, vous avez le courant pélagien-arménien et vous avez le courant d'en face, qui est le courant au niveau des pères de l'Église, c'est pas Pélage, mais c'est Augustin. Et si vous avez donc le courant augustinien, et n'ayons pas peur des mots, c'est le courant calviniste. Ce n'est pas M. Arminius qu'on suit, mais si vous voulez, c'est Jean-Calvin. Alors, ce courant augustinien et calviniste va lui recevoir ce que je viens d'indiquer en commençant, c'est-à-dire le dogme de la corruption radicale, et il va recevoir ce dogme comme provenant vraiment de l'Église. Et ce dogme va correspondre à celui de l'entière affirmation de la souveraineté de Dieu, comme j'essaierai, s'il plaît à Dieu, de vous montrer en commentant l'article 12. Et cette position, ce courant augustinien et calviniste, sera au XVIIe siècle le courant des professeurs de l'Académie de Sedan. Alors là, vous voyez ce cours qui vous apprend des choses au niveau de la dogmatique, j'espère, mais aussi de l'histoire, j'espère aussi, vous apprend que vous avez en plein XVIIe siècle deux facultés de théologie, l'Académie de Saumur et l'Académie de Sedan, qui n'ont pas du tout la même orientation théologique. Saumur est une académie arminienne, Sedan est une académie calviniste. Même si les deux académies sont deux académies réformées, hein, mais vous avez, si vous voulez, un moment courant qui domine. Et la position du courant augustinien calviniste, et alors ici vous comprendrez sans doute par là, si vous ne savez pas encore, certaines bulles de vos aînés dans la maison, etc., ou de vos disciples, ce courant, c'est celui qui est représenté dans le fameux mot tulipe. Et par là, je veux indiquer que le synode de Dordrecht a dans les fameux canons de Dordrecht, ce synode de Dordrecht a adopté des positions de ce courant augustinien. Évidemment, Dordrecht, c'est 1619. Mais vous pouvez le voir en visitant soit le salon des professeurs, où vous avez au fond du salon des professeurs une gravure qui vous montre le synode de Dordrecht, et vous vérifierez, il y a là les chaises laissées vides, les emplacements vides des Français, parce que les Français, invités évidemment au synode de Dordrecht, n'ont pas pu s'y rendre parce que le roi ne l'a pas permis. Soit en venant chez moi, vous verrez une autre gravure de Dordrecht et vous ferez la même vérification. Ce qui veut dire que les Français n'étaient pas à Dordrecht, mais contrairement à ce qu'il est communément admis, un synode national des Églises réformées en France, celui d'Alès, a souscrit aux déclarations de Dordrecht. Et les pasteurs ont été tenus de signer les canons de Dordrecht. Et devrait les signer aujourd'hui, puisque le synode encore abolit cette prescription. Alors, tulipe, qu'est-ce que c'est? C'est d'ailleurs pas un mot français, mais un mot anglais. C'est le mot anglais pour tulipe qui est là au tableau, et c'est un mot mnémotechnique, comme dans les lois fondamentales, où on vous dit ici total depravity, c'est-à-dire la dépravation totale, c'est-à-dire ce que sont en train de voir. Aujourd'hui, c'est le premier article de Dordrecht, hein, c'est la corruption totale. Hein. Total depravity, c'est la corruption totale. Ensuite, M. Bru.
Pitié pas mon anglais.
Allez-y quand même.
Doit être unconditional grace, quelque chose.
Unconditional grace, oui. C'est la grâce inconditionnelle. Elle, L, c'est limited atonement, ça c'est le point le plus délicat, c'est le sacrifice limité. Sacrifice limité, limited atonement, atonement, ça s'écrit. Mais c'est en théologie française, c'est l'expiation définie. Alors ici, évidemment, j'hésite même à vous dire ce que ça veut dire parce que ça peut vous choquer. Mais je vous le dis quand même parce que je résume les choses. Hein. Mais il faudrait évidemment des cours entiers pour expliquer cela. C'est comme quoi, à la croix, Jésus-Christ meurt pour son peuple. Et non pas pour tous les hommes. Hein? C'est le Christ qui meurt pour ses élus. Et pas pour tous les hommes indistinctement. Voilà. Alors, voilà, je vous dis la chose. Hein. Ensuite, vous avez irresistible grace, la grâce irrésistible. En fait, vous m'avez fait tromper là. Hein. Le second point, c'est pas un conditional grace là. C'est le premier point, c'est quoi? C'est pas un conditional. Calling, non, c'est pas ça? L'appel universel.
La vocation efficace. Bon,
nous vérifierons. Alors, irresistible grace, c'est la grâce irrésistible. Et puis là, le P final, c'est perseverance of the saints, la persévérance des saints. C'est comme quoi, quelqu'un qui a la foi, ben, si Dieu a été capable de lui donner la foi, il sera capable de le maintenir dans la foi. Voilà. Alors, c'est ça qu'on appelle les cinq points du calvinisme. Et c'est là les boutades, parce que quelqu'un qui n'est pas tout à fait calviniste, on dira c'est un calviniste 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Si c'est un calviniste 5 points, c'est un calviniste normal. Mais si on trouve que son calvinisme est un peu exagéré, on dira c'est un calviniste 6 points. N'existe pas, il peut être un calviniste 7 points, 9 points, 11 points, etc. Mais j'attire votre aimable attention sur cette notion, c'est que ces fameux cinq points de Dordrecht du calvinisme ne sont pas un résumé de la foi calviniste du tout. Et ceci est méconnu ce que je vous dis là, mais importantissime. C'est-à-dire que vous avez des Arminiens qui ont attaqué la foi réformée confessante sur cinq points. N'est-ce pas? Ils ont tiré à boulet rouge sur cinq points. Et c'est, on devait parler des cinq points des Arminiens. Seulement, ayant attaqué la foi réformée confessante sur cinq points, évidemment, l'Église a riposté sur ces cinq points. Et donc, a dit, ben voilà, sur les cinq points d'attaque des Arminiens, nous répondons par cinq points. Mais ces cinq points qui ne résument rien du tout. Simplement, c'est cinq points de réponse à cinq points d'attaque. Mais ça ne résume pas la foi réformée. La foi réformée est plus vaste, plus totale, plus panoramique, plus extraordinaire, plus démesurée, etc., que ces cinq petits points. Tout important soit-il, chacun. Voilà, j'essaie de vous éclairer un peu vos esprits et vos lanternes pour déjà miner les fiches pour qu'on en ait au moins pour quelques-unes qui fonctionnent. Oui.
Oui, nous vous dites qu'on peut trouver.
Oui, alors vous avez, pour les fameux canons de Dordrecht, alors il y a ça qui soit publié dans la revue réformée, et puis vous avez dans cette collection ici, hein, c'est ça, dans la même tête, la même gueule que ça, vous avez les. Alors, ça, c'est du sûr.
Les attaques qui ont eu lieu envers ces 5 points, la réponse.
Alors, ça, c'est dans les livres savants. Ah bon? Enfin, c'est trouvable. C'est trouvable, hein. Il faut trouver alors des thèses, des livres là-dessus. C'est pas accessible. Alors, Cette position est aussi, par exemple, la position musilienne calviniste, c'est aussi celle des baptistes calvinistes. Ça existe. C'est-à-dire, c'est par exemple aussi la position de Spurgeon. Et c'est la position d'un immense courant calviniste-baptiste ou baptiste-calviniste à travers le monde aujourd'hui. Hein. Ça veut dire que ce n'est pas la propriété des églises réformées seulement. Évidemment, alors, voilà. Alors, évidemment, chacun comprend que la confession de La Rochelle, dans mon petit schéma au tableau, se retrouve, j'espère que tout le monde le comprend, dans le second courant augustinien calviniste. Je poursuis mon commentaire. Le Dieu Tout-Puissant a créé et il maintient la nature entière. C'est que ce que nous avons vu lorsque nous avons parlé de la création et la providence. Le péché ne porte pas atteinte à la métaphysique. Je veux dire que ce que Dieu a créé garde son statut métaphysique. Mais que le péché est un péché éthique. C'est-à-dire, c'est un péché qui couvre toute la situation de l'homme. Il se situe sur le plan de l'éthique. Et ce détournement illicite qui est éthique va désorienter tout ce que Dieu a créé. Et ceci constitue une rupture dans le statut, j'invente un mot, théonomique de l'homme. Évidemment, ceci est pour faire un penchant par rapport au mot autonomie. Autonomie, c'est l'homme qui est autonome, et la théonomie, c'est l'homme qui est soumis à Dieu. Hein? Voilà ce qu'on entend par théonomique. Alors, il y a une rupture dans le statut théonomique de l'homme dans sa relation avec Dieu. Voilà la gravité extrême du péché, c'est que c'est la relation à Dieu qui est affectée. L'homme est coupé de Dieu. Alors vous comprendrez que s'il est coupé de Dieu, comment peut-il remettre de lui-même le courant hein, pour correspondre avec Dieu? Comment peut-il signer ce fameux chèque en blanc? L'homme L'homme va se retrouver en révolte contre Dieu. À la relation de communion pour laquelle l'homme était destiné est substituée une relation de condamnation. À cause de cette rupture, il n'y a pas de possibilité pour l'homme de rétablir la communion. La créature, séparée de Dieu, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle produit le mal. Et par là, elle continue à s'éloigner de Dieu. Et elle n'a pas en elle-même le pouvoir de revenir à Dieu. La créature est laissée à elle-même. Dieu ne donne pas l'énergie particulière du bien. D'ailleurs, l'arbre, le sacrement de cette relation avec Dieu, c'était l'arbre du jardin, qui donnait la vie, qui donnait la relation à Dieu, qui était le sacrement de la relation à Dieu. Et bien l'homme désormais est exclu du jardin. Il ne peut pas manger de cet arbre de la relation à Dieu, il est donc coupé. La dépravité totale rend l'homme incapable de trouver en lui-même l'énergie d'une conversion radicale au bien. quelque part. Vous voyez que Dieu pour que l'homme vraiment se tourne vers le bien, il faut alors que l'homme change. Et il faut que l'homme, que Dieu donne l'énergie du bien à l'homme. Ce que dit la confession. Parce que Dieu est la cause efficiente du bien. Hein? Dieu est la cause efficiente du bien. C'est-à-dire il donne le bien à l'homme. Tandis que Dieu est la cause déficiente du mal. C'est-à-dire que je continue à affirmer que Dieu ne prédestine pas du tout au mal. Encore pas, encore moins au péché. Mais simplement, il est la cause déficiente du mal, c'est-à-dire que ce n'est pas lui qui donne le mal d'une manière efficace. Non, il ne donne pas le mal. Il ne donne que le bien, Dieu. Et il est la cause efficiente du bien. Nous verrons ça plus loin. Troisième paragraphe, votre machine s'est arrêtée. Monsieur Moumoulu. La machine est entrée en maladie confuse. Alors, je continue. Vous avez dans le troisième paragraphe, quoique l'homme ait une volonté par laquelle il est incité à faire ceci ou cela, nous croyons toutefois qu'elle est totalement prisonnière du péché, en sorte qu'il n'a de liberté à bien faire que celle que Dieu donne. Il ne peut faire le bien que si Dieu lui donne le bien. Seul l'esprit, avec un grand E, l'esprit de notre Dieu, s'emparant de la volonté d'un homme, peut lui permettre de faire le bien. Quand le bien est là, c'est un effet de Dieu, cause efficiente, c'est un effet de Dieu qui donne à la créature, séparée d'avec lui, le vouloir et le faire. L'énergie particulière du bien. Quand le bien est là, c'est un effet de Dieu qui donne à la créature séparée d'avec lui le vouloir et le faire, l'énergie particulière du bien. Alors vous le voyez, l'homme doit bien entendu répondre à Dieu, mais cette réponse de l'homme à Dieu n'est pas indépendante de Dieu. La réponse de l'homme à Dieu n'est fournie que par la grâce de Dieu.
C'est valable pour la grâce commune aussi.
Nous ne sommes pas des gens indépendants de Dieu. C'est la particularité du rapport à Dieu et à ses créatures. C'est lorsque je me dessine pour Dieu, c'est vraiment Dieu qui me donne l'énergie, le vouloir et le faire selon son bon plaisir pour que je me dessine. Et c'est plus beau que ce que vous disent, écrit partout les prédicateurs arméniens. C'est plus beau encore. C'est non seulement Dieu en Jésus-Christ a tout fait pour vous et votre salut, mais encore Dieu en Jésus-Christ vous donne maintenant la possibilité de vous repentir, de vous convertir et de croire. Quand un homme se convertit, c'est Dieu qui lui donne de se convertir. Tout est grâce. Et le chèque en blanc est extraordinaire, puisque c'est Dieu qui a tout fait en Jésus-Christ, nous dit-on. Mais c'est encore plus extraordinaire, en ce sens que même le fait d'endosser ce chèque, ou de le signer, est une grâce vraiment tout à fait spéciale de Dieu. Dieu dit signe, et Dieu me donne l'énergie, le vouloir, la grâce irrésistible de signer. Et lorsque c'est moi qui signe, c'est Dieu qui signe. Et je signe que parce que Dieu a voulu que je signe et m'a donné la possibilité. Attention, Il ne faut pas confondre. Lorsqu'un homme me détermine, ce peut être, et c'est souvent, parce qu'il m'a manipulé. Lorsque quelqu'un, c'est-à-dire quelqu'un qui est autre que moi-même, me fait faire quelque chose, ce peut être parce qu'il m'a manipulé, parce qu'il était extérieur à moi. Et j'ai pu faire un acte, j'ai pu faire une réponse en violant ma personnalité, parce qu'on m'a violé ma personnalité. Mais Dieu agit radicalement autrement. Dieu me détermine, mais sans violer ma personnalité. C'est-à-dire, selon la formule splendide d'Augustin, Dieu est plus intime que le plus intime de moi-même. Dieu m'est plus intérieur que le plus intime de moi-même. Et il agit avec un tel talent d'orfèvre que lorsqu'il agit, et c'est bien lui qui agit, et bien à ce moment-là, c'est tout à fait moi-même qui agis. Parce que Dieu comme, n'est pas comme les autres, Dieu est le tout autre. Et lorsque Dieu agit en moi, il ne me viole pas. Au contraire, il me rend libre. Et nous allons, et c'est la préparation de notre commentaire de l'article sur l'élection, et nous allons affirmer que, et ceci est évidemment très révolutionnaire, plus je suis prédestiné, plus je suis libre. Enfin, au plus je suis prédestiné, par le Dieu qui est souverain et libre, au plus je suis libre. Alors qu'en général, on présente la chose tout à fait par l'opposé. Dans mon vieux, les 40 sont cuites, Taka t'a abandonné, etc. C'est Dieu qui a tout fait, t'as fait pour rien. Du tout. Dieu me donne le pouvoir, l'énergie, le faire du bien. Et alors la grâce est encore plus totale. L'émerveillement est encore plus total. D'ailleurs, même l'Arminien le sait. Je l'ai vu dans les camps d'évangélisation de mes yeux d'homme. Lorsqu'un Arminien se convertit et croit au fond, lorsqu'il rend grâce après, il, dans la prière, il comprend bien que dans son petit témoignage, etc., il racontait qu'il s'était décidé pour Jésus-Christ, etc. Mais après, il est obligé, devant la majesté de Dieu dans la prière, de dire, au fond, si j'ai cru, c'est un cadeau de Dieu. C'est Dieu qui m'a donné de croire. Si vous voulez, évidemment, sonder de façon très simple ces aspects des choses, je vous renvoie évidemment à l'ouvrage de J. Packer, l'évangélisation et la souveraineté de Dieu. C'est ça? Oui. Je sais le contraire. Hein. C'est peut-être la souveraineté de Dieu et l'évangélisation. De J. Packer, c'est un ouvrage, un petit bout de bouquin qu'il faut que chacun d'entre vous ait dans sa bibliothèque. J'ai lu plusieurs fois, et puis ça s'est libéré.
Est-ce que c'est différent par rapport à l'exemple du chèque que de dire que le nom est déjà écrit?
Oui, moi je n'aime pas cette histoire de chien.
Non, bien sûr.
Je la fais complètement. Oui, je la reprends. Mais. Non, parce que ça paraît si beau cette histoire de chien.
Oui.
Évidemment, vous me donnez un chien, on est ravi. Hein. Ça paraît si beau. Mais en fait, c'est piégé cet exemple. Donc il faudrait peut-être trouver un autre exemple. Dieu a tout fait pour mon salut, mais il me donne plus encore la possibilité maintenant de répondre. D'ailleurs, c'est pourquoi dans l'évangélisation, on prie. Je le dis aux Arméniens, je dis, si vous priez, c'est que vous pensez que cela ne dépend pas des hommes, du prédicateur, ni des gens qui sont là. C'est que vous demandez à Dieu de convertir les gens. Je veux dire, on ne dit pas, Seigneur, envoie des gens dans cette salle pour qu'ils se convertissent. On dit, Seigneur, fais que ce soir, il y ait des gens qui se convertissent. uniquement au fait qu'ils viennent dans la salle, mais le fait qu'ils se convertissent. Si on fait cette prière, c'est qu'on pense que c'est Dieu qui convertit. Sinon, alors, vous connaissez le goût classique. On est là, on fait face, une chanteuse noire américaine, on chauffe la salle, on met le truc des micros, on met un peu plus fort, etc. Et puis, on chante, etc. On fait du chauffage. Et puis, on crée un climat, et parce qu'on veut faire du forcing. Parce que l'homme, il faut le pousser à ce qu'il se convertisse. Or, en fait, c'est pas l'homme qui a la capacité de se convertir. Si un homme se convertit, c'est un miracle. Aussi important, et peut-être plus, que si une jambe est poussée. Par exemple. Qu'est-ce que c'est que l'évangélisation? C'est d'aller crier dans un cimetière. Parce que nous sommes face à des morts vivants sur pattes, n'est-ce pas, qui sont morts spirituellement. Nous disons, oh là, là-dedans, réveillez-vous, allez dans les cimetières. On va lui faire d'ailleurs des stages pratiques, vous voyez. On dit, alors, là-dedans, réveillez-vous, si vous verrez, les gens ne bougent pas. Pourquoi ils ne bougent pas? Parce qu'il ne suffit pas d'appeler. Mais encore, il faut avoir la puissance de résurrection pour que quelqu'un dans un tombeau puisse se faire craquer et son cercueil, d'abord il puisse avoir l'énergie de ressusciter, et puis alors il faut qu'il fasse craquer le cercueil, le tombeau, etc. C'est quand même pas mal, c'est quand même tout un grand coup. Et bien là c'est un grand coup que Dieu fait, c'est qu'il donne l'énergie de résurrection à quelqu'un qui était mort pour qu'il vive. Alors, le coup là, de Dieu qui aurait soi-disant les mains derrière le dos, ben là, il a tout fait, il a les mains derrière le dos, maintenant c'est à toi d'agir. Ben, il ne faudrait pas que Dieu nous lâche maintenant, parce que le plus difficile, c'est que, justement, ces morts ressuscitent. Ça va pas de soi, ça. Et voilà. Bon, nous continuons. Je vous indique seulement une notion, hein. La notion de concupiscence invincible. C'est-à-dire, il reste l'homme toujours restera un pécheur devant Dieu. Évidemment un pécheur justifié, mais il restera toujours pécheur. C'est ça la concupiscence invincible. C'est-à-dire, pour être très clair, nous n'arrivons pas sur terre à l'entière sanctification. Évidemment, je suis conscient en même temps que cela va contre certaines affirmations de Finet et aussi certaines affirmations de Wesley. Mais c'est comme ça, vous savez, il y a là des textes bibliques qui montrent que nous restons pécheurs. Et bon, le mot n'est pas beau, hein, parce que évidemment, vous voyez, si vous faites des séparations, et un homme pécheur, c'est comme ça, jusqu'au bout. D'ailleurs, le catéchisme de Heidelberg dit, nous en serons à la fin dans les petits commencements, enfin, il y a quelque chose comme ça à nombreux dans le catéchisme de Heidelberg. Excusez-moi, il est peut-être lointain dans mon esprit, mais je sais qu'il est proche. Voilà. Il y aura, répondant à cela, il y aura une double justification en théologie calvinienne. Évidemment, il y aura premièrement la doctrine de la justification classique, enfin, c'est le croyant qui est justifié, c'est le Christ qui étend sur lui comme une vaste station d'épuration le grand manteau de sa justice, de telle sorte que je suis considéré par Dieu comme si j'étais comme le Christ, finalement, puisque je suis revêtu du Christ, et le Christ emporte sur lui, c'est le sens de la croix, mon péché, comme s'il avait péché mon péché. C'est ce que Calvin appellera, cet admirable échange où nous sommes gagnants à tout coup, nous recevons la justification du Christ et c'est lui qui est finalement qui paye comme s'il avait péché mon péché. Alors, il y a la première justification classique, on reviendra peut-être plus loin, il y a des articles là-dessus. Et puis, il y a une seconde justification, évidemment tout ceci est lié, c'est la justification qui intervient au niveau des œuvres. C'est-à-dire, l'homme qui reste encore, l'homme en Christ, qui reste encore un homme pécheur dans cette dialectique entre le déjà où tout est réalisé et le pas encore du royaume, dans cet état que nous vivons, nous sommes justifiés aussi dans nos œuvres. C'est-à-dire qu'il faut que Dieu intervienne pour purifier même nos œuvres bonnes. Et nous nous rappelons bien sûr que c'est un passage d'Ésaïe, que devant Dieu, toute notre justice n'est qu'un vêtement souillé. Et que ce que nous appelons des œuvres bonnes, même les œuvres bonnes du croyant justifié, sont des œuvres où il y a encore quelque part une trace, un vestige ou même une dose certaine de péché. Que là, Dieu intervienne jusque dans le fond. Voilà la notion, je dirais, complète de la justification qui répond à cette puissance invincible, mais nous aurons l'occasion de revenir.